faut que j'achète de la colle, des ciseaux, une nouvelle règle et une nouvelle trousse parce que la mienne, elle est toute cassée, elle est toute abîmée.
Bah, un stylo. J'ai déjà une règle, mais je sais pas si on doit un compas.
Les règles et les compas, c'est plutôt pour la géométrie.
Bah, pareil, calculette, rapporteur, règle, équerre, compas.
Moi, j'arrive juste pas à faire les ronds avec le compas.
Ça dépend. Par exemple, si ça part dans des fractions à virgule, dans les multiplications, ça peut être un peu
dur.
Des fois, c'est compliqué, des fois, c'est facile.
Ça dépend.
Dans quel niveau on est.
Mais après, sinon, tout ce qui est par exemple, multiplication, addition et tout, moi, je le prends comme un jeu.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Upupup, c'est reparti pour Barbatruc, nouvelle saison, nouvel horaire et nouvelle formule de cette émission autour de l'enfance. Je me propose de vous accompagner dans votre rôle de parent. Non, je n'ai pas dit métier de parent, oh que non, pitié. Notre ambition cette année est de vous donner des idées, des conseils, des envies, des trucs, des barbatrucs à faire avec vos enfants. Il y en aura pour tous les goûts. Culture, observation de la nature, cuisine, sport, etc. Avec toujours du savoir joyeux, des histoires à raconter et des invités de tous les horizons. En cette semaine de rentrée scolaire, on va causer mathématiques. Je le dis haut et fort, petite, je détestais les maths. Je trouvais ça vraiment pas marrant. Et si on essayait aujourd'hui de dédramatiser, de rendre le calcul, la géométrie, les équations accessible, voire rigolo, mais si, c'est possible. Les maths peuvent même investir votre vie de famille grâce à des jeux que l'on peut organiser à la maison, à table ou dans la voiture. Essayons de regarder le versant ludique des mathématiques. Il paraît même que si on ouvre bien les yeux, il y a des maths partout autour de nous. On retrouvera aussi Denis Chessou, bien sûr, pour l'actualité du livre Jeunesse. L'as-tu lu, mon petit loup ? Les maths, un jeu d'enfant, c'est parti.
Barbatruc.
Dorothée Barba
sur France Inter.
Une émission en partenariat avec Bayard Jeunesse, réalisée par Christophe Imbert et préparée par Mao de Butler. Alexandre Chenet est à la technique et j'ai le plaisir d'accueillir deux invités pour cette première de la saison. Claire Lomé, présente. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prof de maths au collège, membre de l'association Regard de Géomètre et créatrice d'un blog intitulé Pierre Carré, un blog que vous présentez vous-même ainsi, des maths, mais pas seulement, pour mes élèves et les autres. Vous êtes en quelle classe cette année, Claire Lomé ?
En 6e et en 5e.
Ça vous va ?
Oh, ça me va parfaitement. Ouais. Le moment que j'ai des élèves, tout va bien.
Il n'y a pas de niveau préféré ?
Non.
Vraiment ?
Ah oui, vraiment.
Enthousiaste, en tout cas, en cette rentrée mathématique.
Toujours.
Des maths partout autour de nous, disais-je. Est-ce qu'il y en a ici, dans ce studio
oui.
de radio ?
Ouais. Il y en a justement, oui. J'observais, il y en a au plafond, il y en a dans la façon dont on éclaire, il y en a dans le son qui se déplace de vous à moi, il y en a partout, partout.
Il y en a au plafond, là ?
Ah bah oui, c'est quand même plein de petits carrés.
Ah oui, c'est plein de petits carrés.
Ils sont pas alignés n'importe comment. Hein.
C'est plein de surface.
Voilà.
Deuxième invité, Nicolas Pellet, présent. Bonjour à vous.
Présent, bonjour.
Vous êtes chercheur en didactique des maths. Autrement dit, vous vous interrogez sur les meilleures façons de transmettre et d'enseigner les mathématiques. Et vous avez consacré votre thèse à notre sujet du jour, hein, le jeu et l'apprentissage mathématique. Vous êtes le président de l'association Plaisir Maths. C'est un nom qui sonne un peu comme une provocation, franchement. Beaucoup de gens qui nous écoutent pensent que ces deux mots ne vont pas ensemble, le plaisir et les maths.
Tout à fait. Quand on a créé l'association, le plaisir, c'était vraiment le cœur de ce qu'on voulait. Et ce côté, effectivement, un peu oxymore, plaisir, maths, c'est-à-dire, il y a quelque chose, ça fait réagir les personnes, ça fait réagir les gens, et ça permet déjà tout de suite de créer une discussion.
Vous êtes mathémagicien, Nicolas Pellet, ça veut dire quoi ?
La mathémagie, c'est faire des tours de magie avec des maths, et on explique les maths. Et la différence entre un mathémagicien et un magicien, c'est qu'on explique les tours. On ne cherche pas à créer le mystère, on cherche à dévoiler et à montrer justement que les explications, elles sont dans les maths.
Et vous proposez avec votre association des récréations mathématiques, notamment dans les centres de loisirs, on va en dire plus évidemment. Il faut préciser d'emblée, je crois que ce lien entre les mathématiques et le jeu, il n'est pas du tout nouveau. Hein. C'est même aussi vieux que les maths, Nicolas Pellet.
Vous parliez des récréations mathématiques, les jeux mathématiques, ça a des milliers d'années. Et on trouve même des traces, probablement, des premiers jeux mathématiques il y a très très longtemps. Donc les maths et les jeux, ça va ensemble dès le début.
Vous allez bien sûr nous donner des exemples de jeux et on verra comment affronter les blocages en maths. Barbatruc, jusqu'à 16h.
Barbatruc, sur France Inter,
avec Dorothée Barba.
Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute, où les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche, c'est une musique qui plaît. J'aurais dû nous écouter. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon, plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, compagnons des mauvais jours, que vous soyez une bonne. Cette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archer. Alors je m'en vais, les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnon, dans le paquet et je m'en vais, je m'en vais. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer.
C'était Feu Chatterton sur France Inter. Faire des maths un jeu, voilà notre sujet cette semaine dans Barbatruc, avec Nicolas Pellet de l'association Plaisir Maths et avec Claire Lomé qui est prof de maths au collège. Commençons par le commencement, si vous le voulez bien. L'entrée en mathématiques, si j'ose dire. Les très jeunes enfants, souvent, sont obsédés par une question. Tu sais compter jusqu'à combien ?
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.
Et maman,
38, 32
et
31. Elle est à la crèche, mais elle s'est comptée jusqu'à
6. 9, 10, 11, 13.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Je peux compter jusqu'à 10 000, même plus, c'est juste que j'ai un petit peu la flemme.
En fait, je peux compter, mais ça va prendre trop de temps. Par exemple, je peux compter jusqu'à par exemple, on va dire 10 000, mais ça va prendre trop de temps.
Des propos recueillis par notre reporter Juliette Proutot avec Bayard Jeunesse. Nicolas Pellet, nombreux sont les parents qui ont du mal à expliquer l'infini à leurs enfants, ou en tout cas à répondre à cette fameuse question. On peut compter jusqu'à combien ?
Eh ben, jusqu'à ce qu'on ait plus de souffle.
Vous êtes d'accord pour dire que c'est l'entrée en mathématiques des très jeunes enfants, cette histoire-là, l'infini ?
L'infini, je sais pas, mais compter en tout cas. Parce que les enfants, je sais pas si tout de suite ils...
C'est lié, voilà. Non ?
Si on leur dit est-ce qu'ils peuvent compter jusqu'à l'infini, ils vont répondre oui. Alors que théoriquement, ça va être compliqué. Mais oui, cette notion de... Voilà, les grands noms d'aller loin, c'est tout de suite un ressort. C'est les jeunes enfants, oui.
Claire Lomé, vous avez constaté cette obsession, ou en tout cas ce rapport ludique au fait de compter chez les jeunes enfants ? Le rapport ludique aux maths, de toute façon, on l'observe heureusement à de multiples âges. En revanche, réciter les nombres comme là on les entend, c'est pas savoir compter. Ça, c'est savoir énoncer la comptine numérique. C'est évidemment tout à fait nécessaire parce qu'il faut connaître les mots nombres, de la même façon qu'il faut savoir les écrire de façon symbolique. Mais savoir compter, c'est avoir compris que 4, c'est 3 plus 1. C'est 3 et encore 1. Et ça, c'est quelque chose en fait qui est très différent de la comptine numérique.
Voilà, réciter les chiffres, ce n'est pas savoir compter. À quel âge s'opère la bascule en général ?
Ça dépend vraiment des enfants. On peut avoir des enfants qui arrivent au collège sans vraiment avoir compris ce qu'on appelle l'itération de l'unité, c'est-à-dire que 3 et encore 1, ça donne 4. Mais en général, c'est au courant de la maternelle, effectivement, que ça se pose.
Est-ce qu'il existe des jeux, justement, pour apprivoiser ces notions-là, Claire Lomé ?
Oui, il existe des jeux qui sont d'ailleurs utilisés en maternelle, des jeux qui peuvent être sur écran, avec des tablettes, avec des ordinateurs, mais il existe tout un tas de matériel pédagogique qui permettent ça.
Jouer avec les maths, donc, Nicolas Pellet. Tout simplement, pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que ça apporte à l'enseignement des mathématiques ?
Le jeu, c'est vraiment un angle principal pour les enfants pour découvrir le monde. Entrer avec eux dans l'univers du jeu, c'est entrer dans leur monde. Et donc, du coup, forcément, ça ouvre plein de leviers possibles. La motivation, le plaisir, mais aussi des apprentissages, puisque jouer, c'est apprendre. Plein de penseurs, d'éducateurs qui l'ont dit. Donc forcément, on va pouvoir après trouver des jeux où on va apprendre des maths. Après, il y a des jeux pour le français, il y a des jeux pour la concentration. Tout jeu, de toute façon, est éducatif. C'est ça le point d'entrée, c'est jouer.
C'est parfois un peu contre-intuitif. On s'imagine que jouer, c'est le contraire de travailler ou le contraire d'étudier.
En fait, jouer, ça permet vraiment d'apprendre, effectivement. Je suis complètement d'accord. Et en plus, de développer des compétences sociales, d'échange, de collaboration. Jouer à l'école, en tout cas, doit évidemment être tourné vers des apprentissages. Il ne s'agit pas de jouer à n'importe quoi et n'importe quand, il faut le raisonner pédagogiquement et didactiquement. Mais on a vraiment les moyens, effectivement, de le faire.
Et les parents, dans tout ça, comment les aider à faire jouer leurs enfants aux maths ? C'est ça qui est difficile, parce qu'on, c'est sans doute la matière qui suscite le plus de réticence, vous me dites si je me trompe, chez les parents, les mathématiques. Nicolas Pellet.
Les maths, ça renvoie beaucoup à l'histoire de chacun. Donc si les parents, ils ont eu une mauvaise histoire avec les maths, forcément, ça a des répercussions déjà sur leur enfant. Et l'enseignement des maths, ces dernières décennies, avait fait beaucoup de débats avec la réforme des maths modernes. Et donc forcément, il y a beaucoup de parents qui arrivent avec une image des mathématiques qui est très loin de leur réalité, et même très loin de leur enseignement avant justement la réforme des maths modernes. Donc on est un peu dans cette phase-là de dépasser ça et de montrer tous ces angles différents des maths, mais aussi de la pédagogie, parce que la pédagogie aussi, elle a évolué. Effectivement, maintenant, on peut plus, ou de moins en moins, et c'est pas l'intérêt de laisser les enfants assis à une chaise à écouter. Maintenant, on est dans le siècle des pédagogies actives, et donc il faut que les enfants agissent, bougent, manipulent pour comprendre.
Alors, j'ai entendu parler en préparant cette émission du sac de maths que vous utilisez, Claire Lomé, dans le sac à maths, dans cette relation avec les parents, justement, pour faire rentrer les maths dans les familles. C'est un peu ça l'idée ?
En fait, des collègues ont eu cette idée. Elle est née à plusieurs endroits en même temps, et l'association Maths en scène, qui justement porte le regard de géomètre dont vous parliez tout à l'heure, à attraper cette idée pour pouvoir éditer de très jolis sacs d'ailleurs qui permettent de mettre dedans des objets, des contenus qui renvoient aux mathématiques, mais pas seulement, parce qu'il s'agit pas de voir les mathématiques juste pour elles, mais de les intégrer dans toute notre vie.
Les maths, il faut les décloisonner
à tout le monde, pour tout le monde et avec les autres disciplines aussi. Et donc on prête en fait aux élèves et donc à leurs familles des sacs avec une bande dessinée, un roman, un jeu, une reproduction d'œuvre d'art, des tas de choses, un film éventuellement, des tas de choses différentes en fait pour que ça puisse se partager en famille, puisque justement un des slogans que Auriel Lafrance, qui a fondé Maths en scène, donne, c'est justement que les mathématiques, ça se partage. La culture, les jeux mathématiques, ça se partage et ça se partage en famille.
Auriez-vous un exemple de jeu mathématique qu'on peut pratiquer en famille et qui soit simple et accessible à tous, Claire Lomé ?
Ça peut aller de jeux assez classiques comme le jeu de Go, le jeu de Eggs. Il y a pas mal de jeux effectivement dans ce genre-là. Des jeux comme AV, qui est un jeu de dés avec des chiffres romains et qui mobilise des probabilités conditionnelles derrière, sans qu'on s'en rende vraiment compte. l'atelier des potions, qui est un excellent jeu pour les plus petits. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent, y compris géométriques d'ailleurs, il n'y a pas que des jeux de calcul. Hein.
On va en venir dans un instant à cet atelier des potions, qui est un jeu imaginé par Nicolas Pelet. D'abord, cette distinction difficile de faire l'impasse dessus entre les bons profs et les mauvais profs de maths. Notre reporter a pu le constater auprès des enfants et des ados qu'elle a rencontrés.
Je sais pas, bon prof, mauvais prof, jamais été les profs qui donnaient envie de faire des maths, en tout cas. Enfin, moi, pour moi, en tout cas, c'était pas trop ça.
Moi, je trouve que ça dépend de l'enseignement.
Quand j'étais en CE1, ma maîtresse, elle était très gentille.
Elle apprenait beaucoup les maths, mais moins les mots. Et elle apprenait plus les maths que les mots.
Bah, déjà, les profs, certains, ils ont pas assez la patience pour nous expliquer, du coup, c'est très compliqué. Bah déjà, être patient avec les élèves et en faire un peu comme un jeu, même si de base c'est pas un jeu, rendre ça plus amusant.
Moi je le prends comme un jeu, donc après c'est bien. Donc ça,
oui, moi aussi ça me prend comme un petit jeu, tout ça.
Moi non, c'est tout le contraire.
Parce que la maîtresse, elle fait des problèmes rigolos quand c'est dans le cahier de maths.
Ça se prêtait un peu plus au jeu. Après, forcément, quand tu grandis, les jeux, même si ça reste des jeux, c'est un peu moins fun que quand t'es enfant. Mais je sais pas, bon prof, mauvais prof, j'ai pas l'impression d'avoir eu des très très bons profs. mais après, c'était pas horrible non plus, donc bon.
Alors, c'est évidemment pas à la prof de maths que je donne la parole après ces propos. Nicolas Pelet, le jeu, en tout cas, semble être un critère hein, pour les enfants qu'on a entendus, pour distinguer les bons enseignants des autres.
L'expérience que vont vivre les enfants, c'est sûr que ça détermine ce qui se passe et donc ils l'associent après à l'enseignant. Donc après, il y a pas de bon ou de mauvais enseignant. Il y a l'enseignant qui choisit ce qui va motiver les enfants, les jeux, la manipulation, tout ce qui peut les rendre actifs, encore une fois, ça va leur donner des bonnes images et donc qu'ils associeront à leurs enseignants.
Vous avez entendu comme moi cet enfant qui parle de la prof qui lui parlait plus des maths et pas assez des mots. Quelle réaction suscite chez vous cette distinction entre les maths et les mots, Nicolas Pelet ?
Les maths, c'est très lié au langage. Donc,
on l'oublie trop souvent, ouais, non ?
Ça va vraiment ensemble et donc je pense qu'il n'y a pas d'opposition. Enfin, on a comme ça tendance à opposer des fois un peu les maths et le français. Mais en fait, c'est vraiment des choses qui sont articulées, qui vont ensemble. Et pour le coup, le langage, c'est vraiment ce qui fait la connexion. Les maths, c'est un langage en quelque sorte aussi.
On a tendance, Claire Lomé, collectivement, à oublier que les mathématiques font partie de la culture générale.
Complètement. Effectivement, les mathématiques, elles sont souvent assimilées finalement à une discipline scolaire. Et donc, elles sont liées à l'évaluation, à une certaine forme d'élitisme, parfois à une mesure de l'intelligence. Et tout ça, c'est tout à fait absurde. Et puis, c'est délétère pour les mathématiques, qui font partie de notre culture à tous. Et être au monde le mieux qu'on peut, c'est aussi s'éveiller aux mathématiques. Il n'y a aucune raison de les exclure.
Autrement dit, la question n'est pas seulement de savoir si on est bon ou mauvais, bonne ou mauvaise en mathématiques. Il y a des connaissances qui font partie d'un socle qui devrait être commun, qui pourrait être commun.
Les connaissances communes qui sont utiles vraiment au quotidien, en général, les gens les ont. C'est plutôt en termes de compétences qu'on se place maintenant. Ce qui est intéressant, c'est de développer des compétences parce que ces compétences, elles sont transférables. Par exemple, va développer la compétence communiquer, puisqu'on parlait justement du langage, qui va pouvoir permettre de communiquer à l'écrit, à l'oral, en mathématiques. Les mathématiques, ça se parle aussi. Et puis, on va aussi, évidemment, travailler des compétences de logique, de structure de raisonnement. On va modéliser, ce qui est vraiment une caractéristique des mathématiques, puisqu'on travaille vraiment dans l'abstraction. C'est pour ça, d'ailleurs, que le jeu est si important, c'est qu'il permet de donner à voir. Et que longtemps, peut-être, on a enseigné en revendiquant à fond le côté abstrait des maths, qui est normal parce que c'est leur objectif, mais peut-être en négligeant de donner à voir ce qu'on fait dans d'autres disciplines.
Donc le jeu de mettre une goutte de concret dans les mathématiques.
C'est ça, illustrer d'une façon ou d'une autre. Illustrer, c'est aussi communiquer d'ailleurs.
On va poursuivre dans un instant ces échanges autour des maths. D'abord, des arbres. Je vais en effet vous proposer chaque semaine mes coups de cœur autour de l'enfance, des conseils de livres, d'activités ou de sorties. Et vous retrouverez toutes ces ressources répertoriées à la page de l'émission Barbatruc sur le site de France Inter. Et je commence avec cet album jeunesse publié chez Actes Sud par un auteur que j'aime beaucoup, Olivier Talec. Son nouveau livre est une merveille d'humour et de poésie. Ça s'appelle « Le livre des arbres et plantes qui reste à découvrir ». À chaque double page, on
découvre la présentation d'une espèce et son portrait dessiné. Exemple, l'arbre hésitant. Cet arbre ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Un jour, il a envie d'être un érable du Canada. Le lendemain, un pommier normand. Et puis soudain, il veut devenir un sapin en plein hiver. Comme il change plusieurs fois d'avis par jour, on peut regarder à son pied et on y trouvera des poires, plus tard des oranges et parfois, c'est une noix de coco qui tombe. Voilà, le dessin de cet arbre hésitant est un régal, c'est un joyeux bazar de branches différentes. J'aime aussi beaucoup le chaussetier, le saule pleureur à chaussettes. On dit qu'on y trouve toutes les chaussettes perdues, écrit Olivier Talec, et celles qui avaient disparu sous le lit. D'ailleurs, c'est un arbre qui ne sent pas très bon. Il n'y a que les canards qui osent s'en approcher en retenant leur respiration. Je fais admirer le chaussetier à mes invités. Le voilà. Et puis, il y a aussi l'arbre à glace. Tout le monde a envie de le lécher, mais c'est très décevant. Il a juste un goût d'arbre. Le livre des arbres et des plantes qui reste à découvrir, écrit et dessiné par Olivier Talec, c'est un grand et bel album chez Actes Sud Junior, vivement recommandé à partir de 3 ans. Voici Feist sur France Inter. 1, 2, 3, 4, tell me that you love me more. Sleepless long nights as with my youth was for.
Des choses, tu te dis, par exemple, si je vous dis ce soir ici racine carrée de 25, vous dites 5, ok, et alors? Ça t'a déjà sorti d'une galère ce truc? Tu t'es déjà dit en sortant d'une soirée, heureusement qu'on la connaissait cette racine, sinon on était dans la merde. T'es déjà sorti d'un appartement que t'as visité en disant à l'agent immobilier, écoutez, on l'aime bien, mais on le trouve un peu isocèle quand même. Et en plus, les exercices, regarde avec quoi tu commences la vie. Quand t'es môme, ta vie, elle commence avec des exercices qui s'appellent des problèmes. Des problèmes, c'est comme ça que t'apprends l'éducation de base.
Ça fait rire même mes invités. Et ça me rassure un peu. Extrait d'un spectacle de Gad Elmaleh. Comment transformer les maths en une expérience ludique? C'est la question qu'on se pose avec les invités de Barbatruc cette semaine. Claire Lomé, prof de maths au collège, et Nicolas Pellet, président de l'association Plaisir Maths. J'avais jamais réalisé, en effet, qu'il est très dur ce mot problème pour aborder les exercices mathématiques, Nicolas Pellet.
C'est vrai que le mot problème pose en lui-même un problème, mais on peut pas. En enseignement, on parle plus maintenant de situation de recherche, de démarche d'investigation, de défis, d'énigmes. Mais c'est vrai que les mots ont un sens. Et là-dessus, le sketch de Gad Elmaleh révèle un peu ça. C'est vrai que jusqu'à l'écouter, j'avais jamais pris conscience. Et une fois qu'on a cette conscience-là, bah, effectivement, on peut montrer les choses autrement. Mais les mots ont un sens. On en parlait tout à l'heure. Et si aux enfants on leur dit on va faire un problème, ou si on leur dit on va faire un défi,
ça change tout.
Ça change déjà les choses. Ça change.
Vous aviez l'air de ne pas être d'accord sur cette histoire de racine carrée. Ça vous a déjà sorti d'une galère, vous, Claire Lomé, à la racine carrée de 25?
J'ai déjà eu recours à des calculs qui utilisent les racines carrées. Maintenant, je suppose que si je les avais pas connus, je m'en serais sortie quand même. Effectivement, c'est vrai que ce à quoi Gad Elmaleh fait référence, et c'est vrai que c'est très drôle, c'est une culture mathématique à nouveau scolaire. On en revient toujours là. C'est-à-dire qu'on associe les maths à l'école. Et c'est ça qui est vraiment regrettable.
Alors, c'est l'occasion de dire, puisqu'on parle des jeux depuis le début de cette émission, qu'il y a une grande différence entre les jeux qu'on peut pratiquer en famille et les jeux qui sont pratiqués en classe, Nicolas Pellet. Et on peut peut-être penser à ses parents qui, pensant bien faire, et quand ils découpent la pizza, notamment, je suis la première à le faire, incitent les enfants à en faire des fractions. Si je coupe 6 parts... Ça fait des sixièmes.
Tout à fait. Souvent, on veut bien faire. Et c'est ça, d'ailleurs, l'objet un peu de mes recherches. Si l'objectif, c'est de jouer, c'est pas la même chose que si l'objectif, c'est d'apprendre. C'est ce que disait Claire Lomé au début. Le jeu en classe, oui, mais pour apprendre. Alors que le jeu en famille, ça peut être simplement pour jouer.
Donc, ne nous prenons pas trop la tête en tant que parents sur l'ambition pédagogique et mathématique du jeu.
C'est ça, parce que les séances de jeu en famille, ça peut vite devenir un cauchemar pour les enfants. Je pense que le plus important, puisque vous parliez de conseils tout à l'heure, à donner aux parents, c'est faites des jeux de société. N'importe quel jeu peut être intéressant. Et après, il y a des jeux, voilà, il suffit qu'il y ait des jeux, vous demandez un jeu de stratégie, vous essayez de trouver un bon jeu de stratégie dans votre magasin de jeux, et ben forcément, l'enfant, il va raisonner. Et ça, c'est beaucoup plus utile pour un enseignant d'avoir un enfant qui sait réfléchir, qui sait trouver des stratégies, que d'un enfant qui, justement, va savoir par cœur compter jusqu'à 100 en arrivant en CP. Ça, c'est pas le plus important.
Et les fractions en découpant la pizza, on arrête ou pas?
On n'est pas obligé, mais il ne faut pas insister. Disons, dire des petites explications, mais voilà, c'est à l'enseignant, après, justement, de donner ses explications. Je pense que l'enseignant, leurs parents, son principale mission, c'est de prendre du plaisir et de rendre son enfant curieux.
Ça peut créer des blocages, voire des allergies, Claire Lomé.
Oui, et ce serait dommage, effectivement. Maintenant, c'est vrai que jouer avec ses enfants, mais pas seulement. Lire, partager les lectures, les emmener à l'extérieur, regarder le monde autour de nous. Les balades mathématiques, par exemple, permettent beaucoup ça en ce moment dans les établissements scolaires. On sort, on regarde, on voit des maths partout. Les enfants le font après, parfois, avec leurs parents. Et ça, c'est vraiment important.
Et balades mathématiques.
Ouais, c'est très chouette, les balades mathématiques. Et justement, après, on peut écrire des tas de problèmes, mais ce sont les enfants qui les inventent.
Une nouvelle invitée nous a rejoint par téléphone, avec elle nous allons parler de cette fameuse bosse des maths. Bonjour Clémence Perronnet.
Bonjour.
Merci beaucoup de passer une tête dans Barbatruc. Vous êtes sociologue et vous allez publier dans quelques jours un livre intitulé « La bosse des maths n'existe pas » aux éditions Autrement, rétablir l'égalité des chances dans les matières scientifiques. Alors le point de départ, c'est une idée reçue qui est très répandue. On s'imagine souvent que les matières scientifiques, et notamment les maths, seraient plus égalitaires que les autres. Autrement dit, les performances des élèves en maths serait moins lié à leur famille ou à leur milieu social que le niveau en langue ou en grammaire, par exemple. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Clémence Perronnet?
Tout à fait, c'est l'idée reçue dont je suis partie, cette idée que en fait, les maths, comme le reste des sciences, ça serait neutre et qu'on serait égaux devant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette idée-là, mais qu'on a en même temps l'idée qu'on a un rapport un peu naturel aux maths pour lequel on ne peut rien faire, quoi. C'est la fameuse bosse des maths, quoi. On serait... un peu au hasard et malgré nous, bon pour les maths ou pas bon en maths. Et finalement, tout ce qu'on dit depuis le début de l'émission, c'est-à-dire cette peur qu'on est nombreux à connaître vis-à-vis des maths, ce malaise qu'on a vis-à-vis des maths, elle n'est pas du tout naturelle, mais elle est acquise parce que justement les mathématiques ne sont pas neutres.
Ils font partie de la culture générale, tout autant que les lectures, par exemple.
Oui, tout à fait. Et parce que ça fait partie de la culture et des pratiques culturelles, eh bien, on y a en fait un accès inégal selon qui on est, selon notre position dans le monde social. Et par exemple, ce que nos parents vont faire avec nous et ce qu'ils vont nous apporter, ça va aider ou au contraire rendre plus difficile après les apprentissages et les acquisitions scolaires. Mmh.
Le paradoxe, c'est que les maths souvent cristallisent la réussite scolaire. On considère que les bons élèves sont les forts en maths et d'ailleurs on oriente toujours, encore aujourd'hui, les meilleurs élèves vers les filières scientifiques.
Mais oui, justement, c'est ça. On fait des maths cet outil de classement, cet outil de hiérarchisation. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend très vite à l'école. On comprend très vite que c'est important d'être bon ou bonne en maths, bien plus important que d'être bon ou bonne en sport ou en musique. Même si on va nous dire que c'est tout aussi important que toutes les matières se valent, on comprend très rapidement que le critère sur lequel on est le plus jugé et le plus distingué positivement ou négativement, c'est ce qu'on est capable de faire en mathématiques. Et ça, c'est vrai, c'est-à-dire qu'actuellement, le système scolaire prie vraiment les élèves en fonction de leur performance en mathématiques. Alors, jusqu'à présent, on avait la filière S. C'est pas pour rien qu'on l'a surnommée la voie royale et qu'on a cette compréhension de la filière S comme étant plus intéressante. Et dans la réalité, elle l'est, puisque les jeunes qui sortent des filières S ont de meilleures perspectives d'emploi et de réussite sociale derrière. Donc, effectivement, les maths, elles classent et on se rend compte très vite.
Vous abordez aussi dans votre livre l'inégalité entre les filles et les garçons en matière de sciences, Clémence Perronnet. On entend souvent dire que les filles n'osent pas opter pour des filières scientifiques, qu'elles manquent de confiance en elles pour ça. C'est un peu trop facile comme vision des choses, hein, c'est ce que vous répondez.
Oui, parce que c'est un peu facile, ça remet la faute, encore une fois, sur les filles. Il faut déjà rappeler que c'est pas les seuls à être sous-représentés dans les filières scientifiques et en maths. Il y a aussi les jeunes qui sont issus des milieux les plus modestes, des classes populaires. Et alors à eux aussi, on dit il faut oser, il faut avoir confiance. Et ça, c'est des discours qui sont problématiques parce que ça suppose que le problème, il est à l'échelle des individus. Que c'est à l'échelle individuelle qu'on a peur des maths, qu'on n'ose pas, qu'on n'a pas confiance en soi. Tout ce que j'ai voulu mettre en évidence dans cette enquête, c'est que ces phénomènes-là, en fait, ils sont sociaux. C'est pas que des individus qui ont peur ou qui n'osent pas, c'est des dynamiques sociales. Et parce qu'il y a ce pouvoir des maths dont on parlait tout à l'heure, il y a des enjeux de pouvoir et en fait, il y a des exclus des mathématiques. Et alors, les filles en font partie, et puis les jeunes issus des classes populaires, des milieux modestes en font partie aussi. Ce sont des populations qui sont activement exclues par la façon dont on enseigne les maths, dont on présente les maths. Mais en tant que culture, donc pas seulement à l'école, mais les maths au musée, les maths dans la presse scientifique, les maths dans les émissions télévisées ou les dessins animés, etc., elles sont excluantes pour les filles et pour les jeunes issus des classes populaires. Déjà parce que les mathématiciens, c'est très rarement des mathématiciennes et c'est très rarement des personnes issues de milieux modestes.
Et vous l'abordez notamment dans l'avant-propos de ce livre qui est un dialogue avec l'autrice de bande dessinée Marion Montaigne, créatrice de la géniale Professeur Moustache. La bosse des maths n'existe pas. Le livre sort le 15 septembre aux éditions Autrement. Merci beaucoup Clémence Perronnet et à bientôt.
Merci à vous.
Bonne
à
journée, au revoir.
France Inter, Barbatruc.
Moi, j'aime bien les maths. Et j'aime bien les maths parce que aussi on peut calculer et on peut apprendre à faire des calculs ou des additions.
Parce que par exemple, 1 plus 1 égale à 2, c'est pour ça que j'aime bien.
L'idée, j'ai pas envie de faire des maths, c'est trop dur.
Moi, je leur dis, faites-le, sinon le maître, il va pas être content. Parce que si on sait pas combien ça fait 6 plus 6, c'est dur.
Moi, je pense que ça dépend si t'as un esprit logique aussi, surtout. J'ai l'impression qu'il y a des gens, ils ont une tendance à comprendre mieux.
Oui, ça dépend des personnes, je pense, et de comment tu travailles aussi. Je pense que t'as la méthode de travail ou pas, et ça change tout.
Les multiplications, ça dépend des tables, comme la 8 et la 9, j'aime pas trop.
Moi, j'arrive juste pas à faire les ronds avec le compas.
Ça dépend.
En fait, ça dépend. Par exemple, si ça part dans des fractions à virgule, dans les multiplications, ça peut être un peu...
dur.
Un peu dur, voilà. Mais après, sinon, tout ce qui est par exemple, multiplication, addition et tout, moi, je le prends comme un jeu.
Ouais, t'as vu, c'est grave facile, les additions.
Ça dépend pour les enfants. Il y en a qui en trouvent dur et il y en a qui ne trouvent pas dur.
les enfants sont en verve sur ce sujet au micro de Juliette Proutot avec Bayard Jeunesse. Claire Lomé, je vous voyais secouer la tête sur cette histoire de ça dépend si t'as l'esprit logique ou
oui,
pas.
Oui, je pense que les maths c'est vraiment pour tout le monde. D'ailleurs, Clémence Péronnier le montre très très bien dans son livre. Il y a une injustice qui est effectivement inadmissible, qui est que effectivement on n'est pas pour le moment dans un enseignement équitable des sciences et des maths, et pas seulement dans un enseignement, mais dans un accès aux connaissances scientifiques et particulièrement mathématiques.
Qu'est-ce qu'il faudrait changer très concrètement ?
Je pense que c'est multifactoriel, donc du coup c'est compliqué de faire bouger les choses rapidement. À mon avis, il y a déjà tout un tas de représentations dans la population dont on a déjà parlé, en termes d'élitisme et tout ça. Il y a des difficultés sociales dont parle Clémence Péronnet dans son ouvrage, avec l'accès à la culture qui n'est pas le même, et encore plus l'accès aux sciences qu'il faut quand même davantage chercher pour le trouver. Et puis, il y a la particularité des maths, effectivement, qui est qu'on manipule l'abstraction. Mmh. Après, qu'est-ce qu'on peut changer ? Ce qu'on peut changer, c'est qu'on peut démocratiser vraiment les savoirs, qu'on peut peut-être lever un petit peu le pied sur l'idée de classement, justement, et évaluer, non pas pour trier, mais évaluer pour aider à progresser.
Clémence Péronnet l'a bien dit, hein, c'est un système d'exclusion qui est bien plus global que l'échelle de chaque élève. Néanmoins, il y a des blocages à l'échelle de chaque élève. C'est vraiment une histoire qui marche sur ses deux jambes.
Il y a des blocages et puis il y a de véritables souffrances. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en tant qu'enseignante de mathématiques, je ne peux pas admettre que des individus puissent souffrir à cause ou par les mathématiques. Ça ne devrait pas être, et puis en plus, il n'y a aucune raison que ça le soit. Et aucun élément de savoir, d'ailleurs, ne devrait faire souffrir, puisque les éléments de savoir, c'est pour émanciper.
Vous le dites au début de chaque année, ça ?
Bien sûr, je le dis, et puis je le vis.
Vous le dites comment ?
J'explique à mes élèves qu'on va s'amuser, qu'on va apprendre des tas de choses, et que au travers de ce qu'on va apprendre, ils vont s'éveiller au monde. Ils vont pouvoir faire des choix plus éclairés, ils vont pouvoir grandir, être autonomes, comprendre ce qui se passe, et qu'ils n'ont pas besoin de devenir des futurs mathématiciens pour pouvoir profiter des mathématiques. On peut être fin gourmet sans être très bon cuisinier, mais on peut profiter des mathématiques sans savoir inventer une démonstration.
J'ai amené des machines allemandes, mais je sais même pas à quoi qu'on joue.
On fait un slooby pour rigoler. Est-ce que vous avez assez de dés pour remplir un saut comme ça ?
Mais pourquoi faire un saut de dés ?
C'est plus facile d'en tirer 100 ou 200 d'un coup et d'additionner. Parce que là, avec 3, on va être obligé de tirer 40 fois de suite à chaque tour. Non, mais là, on va faire 60 jets de dés chacun. Comme ça, on sera tranquille, on aura de la marge. Quand on remporte le tour à Slooby, on a 14 solutions possibles. Soit on annule le tour, soit on recalcule les points, soit on compte, soit on divise par 6, soit on jette les bouts de bois de 15 pouces. Ça, c'est quand on joue avec les bouts de bois. Nous, on va faire que chante Slooby.
Barbatruc, France Inter, le samedi à 15h. I finally made some time for me. I'm happy, I'm calm, I'm jiggy, I'm sweet. I'm chasing my dreams, you're Aggie with me. Cause I didn't fit in the mold of your schemes. I'm reckless enough to go spend all my fees, but cautious enough to invest in my dreams. The vision, the board, the flying abroad, the Gucci, the Prada, you're lost in the sauce. I'm lost in the stew, I'm lost in the concept of fixing a brew. Identity crisis for me and my crew. We're black and we're British and African too, but so far removed. I'd like to go back to my mother's land. I'd like mental peace and a 100 grand. And I'm pink babes and we'll do up raves like it's 98. I'm so 94, but I'm work a lot more money, a vacation home, a Nigerian honey who laughs at my jokes even when they're not funny. Support my cause and I'll support yours. Buy me a Benz, look, I'll buy you a Bimmer. Posted in Jamaica, Beanie Man, Sim Simmer, a Honda Accord. Who's got the keys to the Porsche? Force, he's got some keys to afford. I'm so flawed, but that's calm. I can't sleep, I take calms. Herbal remedies like tea for me. Gucci, drinking wine and cheese. Catch me in the dance, drinking wine, say cheese. You got that foot in your mouth situation. I got that foot up, my inspiration. World domination. But I want it, I paved the way for you to make a move, so yes, I want it.
une rappeuse anglaise proposée par Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur musical. C'était Annie sur France Inter. Encore un petit pas de côté avant de continuer à parler mathématiques avec mes invités. On ne dira jamais assez les vertus de la lecture à voix haute. Il est dommage, je crois, de cantonner la lecture à voix haute aux jeunes enfants. Même quand ils savent lire, même quand ils sont ados, leur lire des livres, leur raconter des histoires, c'est se fabriquer des instants suspendus avec eux, des instants précieux. D'ailleurs, eux aussi peuvent lire à voix haute devant un public, par exemple, même pas peur. Les inscriptions ont démarré, sachez-le, pour les Petits Champions de la Lecture, un concours qui fête sa 10e édition cette année et qui s'ouvre pour la première fois aux élèves de CM1, en plus des élèves de CM2. C'est une opération gratuite. On s'inscrit par classe, face à un public, donc, en lisant des textes de littérature jeunesse choisis par les élèves. Avis aux profs de CM1 et de CM2. Les inscriptions sont ouvertes jusque début janvier 2022. Toutes les infos sur le site des Petits Champions de la Lecture.
Barbatruc, Dorothée Barba.
Et on en revient aux mathématiques. Dans la vie, il y a trois sortes de gens, ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas compter. J'ai emprunté cette phrase à l'île logique. Île logique en deux mots, comme une île. Hein. C'est une compagnie de clowns qui propose des spectacles pour enfants autour des mathématiques. J'ai l'impression, Claire Lomé, dites-moi si je me trompe, qu'il y a une effervescence de ce côté-là. Il y a de plus en plus d'initiatives, de spectacles, de jeux, de manières de voir les maths autrement, de montrer à quel point les maths sont belles.
Oui, c'est vrai. Il y a de plus en plus de colloques, de réunions, de fêtes autour des mathématiques, d'événements de tout genre. Par exemple, Regard de Géomètre, on construit des projets artistico-mathématiques, en fait, avec des classes. Tout à l'heure, on parlait de lire à haute voix. C'est pareil, Matenscène propose Éloquenscience, qui permet de rencontrer des scientifiques et des intervenants de théâtre pour développer des capacités d'argumentation, d'éloquence en science, etc. Et il y a effectivement énormément d'événements qui permettent à nouveau de donner à voir, à toucher, à rêver les mathématiques, et qui permettent aussi de créer, de rire, de faire de la poésie, d'inventer autour des mathématiques qui sont effectivement un univers magnifique et sans limite.
Vous parlez dans votre blog d'ailleurs d'émotions mathématiques.
Ah oui. Pour moi, les mathématiques sont complètement liées à des émotions. Mmh. Tout à l'heure, vous parliez au début de votre émission de votre nouvelle formule avec du sport, de la cuisine, de la culture et tout ce que vous disiez me faisait penser à des activités mathématiques avec des
vous
mathématiques dedans.
Vous êtes un peu obsessionnel, peut-être. C'est une
possible.
Hypothèse. Hein.
C'est possible, je l'avoue.
Alors, qu'est-ce que j'ai devant les yeux, Nicolas Pellet? Ce sont des petits cartons magnétiques avec une grenouille, une araignée, une potion. Ça, c'est une raie, je crois.
Tout à fait.
De quoi s'agit-il?
Il s'agit de l'atelier des potions. Mmh. Donc, il y a un jeu qui a été conçu par Plaisir Math. Oui. Donc, toute une équipe, tout à fait, avec des chercheurs, des enseignants, des animateurs. Et l'objectif, justement, c'était d'aborder cette notion compliquée que sont les fractions sous la forme la plus ludique possible.
À partir de 8 ans, le jeu, c'est ce qu'on lit sur la boîte.
Voilà.
C'est jeune, ça, 8 ans pour les fractions?
Ça pourrait être plus tôt, mais on a mis 8 ans parce que c'est au programme scolaire et que les fractions, c'est à partir du CM1. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on a mis cet âge-là.
Comment ça marche?
Eh bien, les enfants sont des apprentis sorciers, apprentis sorcières, et ils doivent faire des potions. Vous avez devant vous aussi une petite marmite que j'ai mis. Et il y a des recettes, donc comme des recettes de cuisine, on parlait de cuisine, sauf que là, comme on est des sorciers et sorcières, eh bien, c'est avec ces ingrédients. Et donc, par exemple, vous avez des cartes potions que j'ai mis devant vous.
J'ai évidemment paumé les cartes potions.
Voilà, je vous en redonne une.
Tac.
Et donc, voilà, il faut faire la recette. Donc, vous devez prendre, par exemple...
D'accord, je dois mettre 3 cinquièmes d'araignée, 1 tiers de grenouille et 2 tiers de serpent pour faire la potion numéro 17, par exemple.
C'est ça.
Quelle réaction ça suscite auprès des enfants dans les centres de loisirs dans lesquels vous intervenez, Nicolas Pellet?
Alors, c'est aussi un jeu pour les classes. Pour,
oui, d'ailleurs, Claire Lomé l'utilise dans ses classes, au collège, donc pour les plus grands. Hein.
Au collège, et puis à l'école pour les plus petits.
Les enfants, si on leur dit, comme je disais tout à l'heure, on va jouer, est-ce que vous avez envie d'être des sorciers, des sorcières? Tout de suite, ils ont envie. C'est sûr que si on arrive et qu'on leur dit, est-ce que vous avez envie de jouer aux fractions? C'est pas l'enthousiasme n'est pas immédiat.
Donc, vous cachez vos intentions? Finalement.
Oui et non, c'est-à-dire qu'on peut, mais les enfants, pareil, il ne s'agit pas de les duper, c'est-à-dire qu'on va leur dire qu'on va jouer avec les fractions, mais on va jouer en étant sorcier, que les sorciers et les sorcières, ils ont besoin des fractions pour faire leurs recettes, etc. Donc il y a vraiment une connexion à faire, il ne s'agit pas de duper, il s'agit au contraire d'articuler les choses, et là, ce jeu-là, justement, il y a une connexion, c'est-à-dire que faire des recettes, faire de la cuisine, c'est faire des maths, c'est mettre des ingrédients, c'est des proportions, c'est peser, il y a plein de choses qu'on peut faire, et on parlait tout à l'heure de conseils aux parents, faites des recettes de cuisine avec vos enfants, bah vous allez faire des maths, mais sans trop insister. Ce qu'il faut pas, c'est insister. C'est ça qu'après, justement, savent faire les enseignants quand ils mettent en place des jeux, c'est créer les liens entre le jeu et l'apprentissage. Et en tant que parent, on a envie que nos enfants réussissent. On parlait de la réussite tout à l'heure, ouais. Alors on va aller insister, mais alors tu sais pas compter, etc. Et puis voilà, la séance de jeu ou de cuisine, elle se transforme en cours, mais alors tu sais pas tes tables de multiplication et tout ça. Moi, mes recherches, comme vous disiez tout à l'heure, je suis chercheur en didactique, c'est le contrat didactique et ludique. Et ce qu'on voit souvent, c'est que ça démarre en jeu, on est du côté du jeu, puis petit à petit, ça bascule. Et puis on se retrouve du côté de l'enseignement et le parent se retrouve en position d'enseigner à ses enfants.
Finalement, ce jeu des potions, comme toutes les activités ludiques que vous suggérez, c'est une façon de répondre à cette question que vous trouvez sans doute insupportable. À quoi ça sert, les maths ?
C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à quoi ça sert la musique, à quoi ça sert le sport. Voilà, on en fait parce que ça nous fait plaisir. Quand on a ce côté plaisir, et ben après, on apprend. C'est vraiment ça l'angle.
Vous avez de beaux souvenirs avec ce jeu, l'atelier des potions,
Ah oui,
Lomé.
J'ai de très bons souvenirs avec des collègues professeurs des écoles qui l'ont, même eux d'ailleurs, qui en le pratiquant, qui ont compris autrement. Et puis, bon, l'objet fraction, c'est vrai que c'est quelque chose en plus qui a plusieurs sens en mathématiques, qui se découvre au fil du temps. Donc oui, j'ai de très beaux souvenirs. En revanche, vous disiez que la question à quoi ça sert en maths doit nous être insupportable.
Elle est légitime pour autant, cette
voilà,
question.
Voilà, c'est ça. Moi, je la trouve pas du tout insupportable. Et même, je trouve qu'un élève qui la pose, c'est déjà un bon point de départ. Ah. Parce qu'il se pose une question et que cette question, elle a du sens. Il y a plein de notions qu'on enseigne en maths qui, effectivement, ne vont pas nous servir au quotidien. Et ce sont des prétextes pour développer ces fameuses compétences. Donc, je pense qu'on peut rester serein par rapport à cette question, donc et répondre tranquillement.
À quoi servent les mathématiques ? Vous ne la balayez jamais, cette question, Claire Lomé ?
Ah non, jamais.
Et vous la trouvez belle ?
Il y a une très jolie affiche du laboratoire de recherche de Rouen, qui est magnifique, sur laquelle on lit « Les maths, ça sert à rien, sauf ». Et puis, il y a tout un énoncé de verbes qui spirale magnifiquement. Et effectivement, voilà, les maths servent à énormément de choses.
À s'émerveiller, notamment.
Par exemple.
Allez, place à l'actualité du livre pour enfants à présent. Rendez-vous incontournable proposé par Denis Chessou. Bonjour Denis.
France Inter.
La tulipe, mon petit loup.
Salut Dorothée, bonjour à tous. Non, vous ne couperez pas à la rentrée des classes, sujet classique mais souvent créatif, avec le but de dédramatiser la rentrée quand on est petit. Donc, pour nos petites louves et petits loups, à partir de 3 ans, même pas en rêve, de Béatrice Alemagna à l'école des loisirs. Pascaline est une petite chauve-souris. Elle vit là, dans cette cossue maison-arbre. Et si on devait la décrire, on pourrait dire d'elle qu'elle a
3 ans, des ailes velues et des idées très claires. Pas d'école, même pas en rêve.
Sauf qu'aujourd'hui, et c'est le grand jour, c'est la rentrée des classes.
Non, elle n'ira pas à l'école, même pas en rêve. Tous ses jouets sont d'accord, et Lombric, son doudou est catégorique. Pas d'école pour Pascaline.
Ses parents lui font comprendre qu'il va falloir qu'elle y aille, comme tous les autres animaux.
Dehors, on s'affaire. Les hérissons, les crapauds, les chenilles, les écureuils, chacun file tranquillement à son école.
Ils rivalisent d'arguments pour convaincre Pascaline d'y aller. Ah ben, ce sera l'occasion pour elle d'apprendre tout un tas de nouvelles choses et d'avoir des copines et des copains.
Non, non et non, même pas en rêve.
Oula, un phénomène se produit.
Oh zut, Pascaline a crié si fort que ses parents en sont tout ratatinés. Ils sont devenus aussi petits que 2 cacahuètes.
Papa et maman ne sont pas enchantés par cette situation. Et Pascaline, elle, y voit une belle aubaine.
Elle les cache sous son aile et part à l'école.
Grâce à ses 2 chaperons improvisés, elle est toute gonflée de confiance.
À la cantine, c'est le brouhaha et personne ne prête attention à Pascaline. Elle cache ses parents dans son verre.
Mais sa maman se croit au restaurant quand son père patauge allègrement dans la purée.
Beurre qu'il y en a partout. Vous êtes vraiment impossible.
Et puis la journée se termine et l'heure des parents arrive.
Tout le monde se serre, s'embrasse, se câline. Pauvre Pascaline, elle n'a personne à retrouver. Normal, comment attendre tes parents quand ils sont collés à toi depuis 5 heures ?
Heureusement, en rentrant, papa et maman s'étirent si fort qu'ils retrouvent leur taille. Eux, ils ont adoré et sont partants pour y retourner.
Mais en sera-t-il de même pour Pascaline ?
En effet, avec son héroïne aussi vive que la couleur rose de ses ailes, l'autrice raconte comment l'émancipation peut aussi être synonyme de ras-le-bol des parents, quitte à égratigner un peu leur image. Et si Pascaline réalise un fantasme enfantin absolu, qui est celui d'emporter ses parents dans sa poche,
elle finit par se rendre compte qu'ils peuvent être encombrants et que le plaisir de les retrouver est précieux.
Alors pour cette nouvelle histoire, Alemagna renoue avec l'ambiance automnale de ses illustrations pour y placer son héroïne éclatante au sein d'une école accueillante où les arbres servent de salle de classe, où les tables de cantine sont des gros champignons. Après l'école de Sarah Turoche-Dromery et Aurore Calas pour les dessins, aux éditions Thierry Magnier à partir de 4 ans. D'abord une sortie d'école pleine de vie. Deux enfants, filles et garçons, sont devant la grille et s'attardent évoquant le programme qui les attend une fois rentrés chez eux.
Moi, pour le goûter, je mange des crêpes que je trempe dans une fontaine de chocolat. Et toi ?
Moi, après le goûter, je joue dans mon jardin avec un tigre apprivoisé, une girafe bottée et des poussins un peu zinzin.
Moi, mon salon est si grand que mes jouets arrivent sur un tapis roulant et que je peux skier dedans.
Moi, je ne fais jamais mes devoirs. Ce sont mes lutins qui travaillent pendant que je suis sur une balançoire.
Moi, un robot apprend mes leçons. Aux exercices de maths, il trouve toutes les solutions.
Donc, nous ne sommes pas exactement dans un programme classique et studieux d'après-goûter. Nous sommes dans une surenchère de délire enfantin à celui qui épatera l'autre au pays de l'absurde, du rêve, de l'imaginaire sans barrière. Eh ouais, car c'est ça aussi un enfant de 5-7 ans qui se construit, qui passe le plafond de verre, qui ne vit pas encore dans le rationnel imposé par la société.
Moi, je dors sur un matelas magique. Je pars au-dessus du Pacifique, en Jamaïque et même en Antarctique.
Et alors là, fin de partie.
Quel menteur ! Un lit qui vole, ça n'existe pas, tu racontes n'importe quoi. Oh, pas plus que toi.
On se tire la langue, et puis on se dit...
À demain.
Illustration généreuse, inventive, aussi débridée que les propositions délirantes de cette escalade, pour savoir qui aura la vie la plus incroyable. Alors, nous sommes bien dans l'univers des enfants créateurs, pour qui rien n'est impossible. C'est joyeux, fou et graphiquement réussi. Après l'école de Sarah Turoche-Dromery et Aurore Calas, aux éditions Thierry Magnier, c'est à partir de 4 ans. Merci, Lucie Cosmala. Éric Oswald, du Chez nous, nous vous souhaitons de belles lectures et la fin de l'émission, bien sûr, vous appartient, Dorothée.
Merci Denis Chessoux pour cette jolie rentrée de pipistrelle. Rendez-vous à la page de l'émission franceinter.fr pour retrouver les références des livres cités dans L'as-tu lu mon petit loup. Et je rajoute encore un conseil de lecture, tenez, le nouveau numéro d'Astrapi avec là aussi la rentrée scolaire au programme. Prêt pour la rentrée, Astrapi, aussi un dossier sur l'hippopotame, très joli. C'est un bimensuel, deux fois par mois, Astrapi en kiosque. Claire Lomé et Nicolas Pelet, deux mordus de mathématiques, sont toujours avec moi dans ce studio. Avant de vous laisser partir, j'ai une dernière question à vous poser à tous les deux. Question rituelle dans cette émission, on reprend nos habitudes. C'est un inventaire olfactif que l'on dessine au fil des semaines. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance. Claire Lomé.
Je pense que c'est celle des embruns de ma ville balnéaire natale.
Et qu'est-ce que ça sentait ?
Un mélange de sel, d'algues sans doute, de soleil, de galets, de fraîcheur et d'humidité.
Plutôt le sud ou l'ouest de la France ?
Oh, plutôt la Normandie, donc plutôt une mer froide.
Nicolas Pelet, même question, quelle est l'odeur de votre enfance ?
Moi, l'odeur de mon enfance, c'est le foin dans l'été, les bottes de foin, le grenier. On jouait beaucoup là-bas et j'habitais à la campagne, donc voilà, vraiment les odeurs de campagne.
Et c'est une odeur qui convoque immédiatement un voyage dans le temps.
Ouais.
Très joli mélange aujourd'hui, les embruns et le foin. Plaisir Mat, c'est le nom de votre association, Nicolas Pelet. Je renvoie à votre site internet pour commander cet atelier des potions, le jeu de société dont on a parlé, qui aide à maîtriser les fractions, mais sans en avoir l'air. On trouvera également sur votre site internet des récréations mathématiques. Il faut s'inscrire, c'est gratuit. Plein de propositions de récréations mathématiques, c'est absolument réchouissant. Votre association, à vous, Claire Lomé, s'appelle Maths en scène, avec cette initiative Regard de géomètre. Tous les liens utiles sont sur le site de France Inter, bien sûr, à la page de Barbatruc. Merci mille fois à tous les deux.
Merci beaucoup.
D'être venus nous voir. Bonne journée et vive les maths ludiques.